Podcast Unige.
Pour ce deuxième épisode de Lifelong Learning at Unige, j'ai le plaisir d'interviewer la professeure Silke Graber et le docteur Guylain Patrick Le Sen, respectivement directrice et coordinateur du certificat de formation continue en droit, médecine légale et sciences forensiques en Afrique. La professeure Silke Graber est directrice du Centre universitaire roman de médecine légale, situé sur 15 sites dans les cantons de la Suisse romande et le Tessin. Dans cette fonction, elle tient le rôle de chef de service au sein du Centre hospitalier universitaire vaudois et des hôpitaux universitaires de Genève. Elle est professeure ordinaire de la faculté de biologie et médecine de Lausanne et à la faculté de médecine de l'Université de Genève. Silke Graber est médecin légiste de formation et s'est spécialisée notamment dans l'imagerie forensique. Elle a acquis une certaine notoriété dans ce domaine grâce au développement de l'angiographie post-mortem en phase multiple, qui est aujourd'hui la méthode d'angiographie post-mortem la plus utilisée dans le monde. Elle a formé de multiples équipes sur tous les continents et a édité l'Atlas de l'angiographie post-mortem comme éditrice principale, raison pour laquelle elle est considérée aujourd'hui comme une référence dans ce domaine. Silke Graber est également vice-présidente de la Société allemande de médecine légale et chef des groupes de travail sur l'imagerie forensique de la Société allemande et de la Société suisse de médecine légale. Elle a initié la création d'un groupe de travail international sur l'angiographie post-mortem. Dans son activité de médecin légiste, elle est intervenue comme experte dans de multiples affaires nationales et également internationales, et elle a créé des collaborations avec différentes organisations internationales et non gouvernementales, notamment le CICR. Le docteur Guylain Patrick Le Sen est chargé d'enseignement à l'Université de Genève. Il est aussi le directeur exécutif du Centre d'études juridiques africaines, le CEJA, basé à Genève. Docteur en droit international et spécialiste en droit de l'homme et en droit international humanitaire, il enseigne depuis plus d'une dizaine d'années dans plusieurs universités en France et en Suisse. Auparavant, il a occupé plusieurs fonctions de conseiller juridique pour diverses organisations de défense des droits de l'homme. Il est également expert auprès de diverses associations humanitaires et institutions internationales. Professeur Graber, qu'entend-on par médecine légale et sciences forensiques ? Comment est-ce que vous pourriez décrire ce domaine pour les non-experts ?
Alors, en fait, le domaine le plus large, c'est vraiment les sciences forensiques. Ça veut dire, en sciences forensiques, on met toutes les méthodes scientifiques, toute la science qui apporte à chercher la vérité. Ça veut dire au niveau d'une enquête policière, au niveau d'une enquête juridique. Et une partie des sciences forensiques, c'est la médecine légale. Mais même la médecine légale, donc ce qui est le domaine médical, a en fait aussi plusieurs parties, dont entre autres la médecine forensique. Donc la médecine légale, c'est toutes les méthodes qui sont médicales. Dans les sciences forensiques, on divise les parties médecine forensique, vraiment le travail des médecins, et les parties des laboratoires, comme la toxicologie forensique ou aussi la génétique forensique. Et la médecine forensique pure et dure, donc c'est le domaine du médecin légiste, ça veut dire le but est d'examiner des corps, vivants ou morts, et de comparer ce qui raconte en fait le corps d'une personne versus les dires de la personne si elle est vivante ou les circonstances qui nous sont données, par exemple par la police ou des témoins, et de confronter les deux versions.
Et comment êtes-vous arrivé initialement à vous spécialiser sur ce domaine ? Qu'est-ce qui vous a intéressé particulièrement vous-même ?
Alors initialement, j'ai choisi entre plusieurs métiers qui m'intéressaient, entre le métier d'une infirmière par exemple, d'un policier ou d'un médecin. Finalement, j'ai choisi de faire les études de médecine, mais j'étais un peu déçue de mon travail comme médecin parce que j'ai bien compris que soit on est médecin généraliste, on travaille dans un cabinet, on voit un peu toujours les mêmes types de cas, et dès qu'un cas est très intéressant, on envoie vers un spécialiste, donc on est forcé un peu d'être spécialiste ou généraliste. Soit on travaille comme spécialiste, et à ce moment-là, on fait un peu toujours la même chose. Donc j'étais un peu déçue parce qu'il me manquait un peu une vision générale de la médecine. Et quand j'ai découvert la médecine légale, je me suis dit, mais enfin, une fois qu'on est morte, au moins on s'en occupe d'une personne de A à Z. On regarde tout le corps, on écoute toute l'histoire. et on veut vraiment répondre aux questions. Et cet aspect général et aussi cet aspect d'être en action, d'aller sur place, de ne pas trop savoir ce qui nous arrive la journée, c'était vraiment ce qui me plut le plus en médecine légale.
Docteur Le Sen, je vous pose la même question. Vous êtes vous-même juriste, docteur en droit. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce domaine ?
Alors, il faut dire que je suis venu par un concours de circonstances qui m'a amené à la médecine légale, puisque en tant que juriste, je ne m'y intéressais pas jusqu'au jour où j'ai eu une expérience personnelle, le décès de mon père qui est mort assez brusquement en République centrafricaine dans un contexte assez compliqué de conflit. En tant que tel, où le matin, on m'a dit qu'il était bien et vers 20h, on m'appelle pour m'annoncer son décès. Et étonné, j'ai voulu savoir de quoi il est décédé. Hein. Est-ce qu'il a, comme c'est un contexte de conflit armé, est-ce qu'il a été tué ou est-ce qu'il a eu une maladie ou il a une maladie que nous, on ne connaît pas, dont on pourrait aussi souffrir. Et là, quand je me suis adressé au médecin, on nous a fait comprendre qu'il n'y a pas de médecin légiste. J'ai essayé de toucher des amis magistrats en tant que tel pour une intervention, pour que quand même on sache de quoi il est décédé. Et c'est là où on m'a dit qu'en République centrafricaine et dans beaucoup de pays africains, par la suite je le saurai, c'est qu'on fait juste une observation externe du corps. Si on ne constate pas grand-chose, on décide que c'est une mort naturelle. Et donc tout ce qui est interne, les autres causes sont plus ou moins ignorées ou bien tout simplement laissées aux oubliettes parce qu'il n'y a pas de spécialiste. Et donc à partir de là, l'idée a été de voir comment on pourrait éventuellement faire quelque chose. Et c'est comme ça que la professeure Sylvie Graver, la directrice du CUR, m'a accepté l'idée de faire quelque chose pour l'Afrique, hein, d'amener une formation dans ce sens-là au niveau africain. Et je suis tombé dedans. J'ai découvert ce que c'est que vraiment la médecine légale.
Et justement, Sylvie Graver, vous avez atteint une reconnaissance internationale dans votre domaine en mettant au point la technique de l'angiographie post-mortem. Pourriez-vous peut-être en quelques mots nous expliquer de quoi il s'agit ?
Alors, angiographie, le mot veut juste dire angio, donc c'est les vaisseaux, et graphie, c'est la visualisation. Donc, c'est la visualisation des vaisseaux sanguins à l'intérieur du corps. Et en fait, s'il faut comprendre, si on fait une autopsie normale, on regarde bien les organes, on regarde à l'intérieur du corps, on examine quelques grands vaisseaux, mais notre corps, il est plein de vaisseaux, c'est un peu comme un arbre avec plein de petites branches, donc on ne peut pas examiner toutes ces petites branches. Alors l'idée est de ne pas examiner les vaisseaux lors de l'autopsie, mais déjà en amont. Ça veut dire qu'on utilise le corps lui-même pour nous montrer où il y a peut-être un problème au niveau des vaisseaux, donc une occlusion ou une rupture qui pourrait créer une hémorragie. Tout simplement en injectant en liquide avec une machine qui remplace un peu le cœur chez une personne vivante, donc qui fait un mouvement pour pousser le liquide à travers du corps. Et si en même temps on utilise les moyens d'imagerie, par exemple un CT scan, on peut visualiser un produit de contraste qui traverse ces vaisseaux. Et du coup, on peut voir toutes ces petits arbres de nos branches vasculaires et on peut voir s'il y a une fuite, s'il y a un vaisseau rupturé ou un vaisseau occlus, comme on l'a par exemple dans un infarctus.
Et pourquoi est-ce que cette technique est devenue particulièrement utile et importante dans le domaine de la médecine légale ?
Tout simplement parce que très souvent, la cause de décès est liée avec un problème des vaisseaux sanguins. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment bien pu les visualiser. Donc, du coup, on peut trouver des causes de décès qui n'étaient pas visibles en avant parce qu'on n'avait pas une technique pour voir tous ces vaisseaux. Et il faut comprendre, si une personne meurt, par exemple, lors d'un accident, lors d'un traumatisme, très souvent, la cause de décès est une hémorragie. Et on veut comprendre d'où vient le sang, où est le vaisseau rupturé. Mais sans vraiment le visualiser, on n'a que des réponses indirectes. Et d'autre côté, une des causes de décès les plus souvent observées en Europe et même dans quasiment tous les pays aujourd'hui au monde, c'est le décès suite à un problème cardiovasculaire, donc une occlusion de vaisseaux, un infarctus. Et là, de nouveau, la visualisation des vaisseaux et leur occlusion est essentielle. Donc du coup, grâce à cette technique, on peut trouver plus de causes de décès qu'on a pu voir avant. Et du coup, on peut répondre à des questions qu'on n'avait pas la réponse juste avant.
Et comment est-ce que vous utilisez ce type de recherche dans le cadre de vos enseignements à l'Université de Genève, par exemple, dans un programme de formation continue tel que le CAS, droit, médecine légale et sciences forensiques?
Alors, la bonne chose avec une combinaison d'un travail de prestation de médecine légale, donc le centre, on fournit des prestations à la justice, mais en même temps, on s'occupe de l'enseignement, ben, ça apporte que tout ce qu'on enseigne est vraiment à jour. Donc, on n'enseigne pas des théories, on enseigne ce qui est appliqué dans la pratique. Et dans le CAS Afrique, l'imagerie forensique est particulièrement importante parce que dans plusieurs pays en Afrique, de faire une autopsie, c'est quelque chose qui est difficilement imaginable. Alors que si on fait une imagerie, donc on regarde à l'intérieur du corps sans vraiment l'ouvrir ou avec très peu d'ouverture, donc juste une petite incision et cette injection de liquide, c'est quelque chose qui est beaucoup plus acceptable. En plus, ça produit des images qui peuvent être envoyées de manière digitale ailleurs. Donc, ça permet aussi de pouvoir assister à distance, par exemple, des experts en Afrique qui utilisent la technique et qui nous demandent, par exemple, d'aider à l'interprétation, ce qui n'est pas vraiment possible avec une autopsie parce que là, il faut vraiment être présente et on ne peut que la faire bien une seule fois. Après, quand on a coupé à l'intérieur du corps, on ne peut pas enlever ce qu'on a fait. Alors que l'imagerie et la dissection virtuelle, on peut la refaire à n'importe quel moment.
Docteur Lessen, ce CAS, justement, parlez-nous un peu de la genèse du projet. Comment a-t-il été conçu? Pourquoi? Pour quel public cible? Vous avez parlé un petit peu de l'historique, de comment vous êtes arrivé vous-même dans ce domaine-là. Est-ce que c'était aussi ça l'idée? C'était d'amener des compétences là où il en manquait?
Oui, tout à fait. C'était de répondre à un besoin du continent, hein, puisqu'il y a un constat, c'est que la médecine légale n'est pas assez développée en Afrique, malgré son importance pour la santé publique. Donc, à part l'expérience personnelle que j'avais citée tout à l'heure, on a dû avoir un certain nombre de rencontres, ici déjà à Genève, au niveau du Conseil des droits de l'homme, avec les experts africains qui interviennent lors des sessions, pour parler un peu de la médecine légale. Ils ont vu l'importance, puisque vous savez, le continent africain, c'est quand même un continent où il y a un certain nombre de conflits non résolus et à répétition dans un certain nombre de pays. Et donc, ils ont vu l'importance de la médecine légale pour la justice dans ces États. Ensuite, on a discuté avec les membres des missions permanentes africaines aussi ici, qui ont trouvé très utile l'invention de la professeure Silke, mais également le fait que, vu culturellement parlant en Afrique, avec cela, on pourrait éventuellement faire de l'autopsie sans ouvrir le corps, puisque les pratiques traditionnelles et religieuses parfois interdisent ou impliquent qu'on enterre rapidement le corps, mais avec cette méthode-là, on pourrait savoir de quoi la personne est décédée. Et les magistrats aussi ont trouvé un intérêt, puisqu'ils se sont rendus compte que, comme je vous l'ai dit, c'est une observation externe du corps. Or, il faudrait aller plus loin pour éviter un certain nombre d'erreurs judiciaires en tant que tel dans un certain nombre de dossiers. Donc, cela nous a amené par la suite à nous déplacer sur place, à faire des missions exploratoires avec la professeure Silke et la docteure Doudjika aussi de l'École des sciences criminelles de Lausanne. En plus, police scientifique, on a été au Bénin, au Togo, on a été reçu en audience par les ministres, les recteurs des universités, les doyens des facultés de médecine et les magistrats également, où on a pu exposer la situation, les étudiants. On a fait des conférences avec les étudiants qui ont trouvé très intéressant, non seulement sur le plan médical ou universitaire, mais aussi des débouchés, puisqu'on a vu que ça pourrait créer un certain nombre d'emplois pour les jeunes. Hein. C'était une ouverture aussi de perspectives d'emploi dans des domaines très peu exploités ou explorés en Afrique. Donc voilà comment le programme a été conçu, pour quel public, mais ceux qui sont les premiers intéressés, c'était déjà les facultés de médecine, qui avait un certain nombre d'enseignements, mais pas de spécialistes en matière de médecine légale en tant que tel. Donc, ils ont trouvé cela intéressant. Il y a aussi là, les magistrats, le personnel pénitentiaire également, mais également la société civile. Parce que, comme je l'ai aussi appris, la médecine légale, ce n'est pas que la médecine des morts ou la thanatologie, comme on le dit en termes techniques, mais c'est la médecine du vivant. Les violences corporelles, les maltraitances, les mauvais traitements en tant que tels. Donc, tout cela a été une ouverture pour les Africains et beaucoup, la société civile africaine également, s'est montrée très ouverte pour cela. Donc, du coup, on a ouvert à un certain nombre de publics. Hein. Donc, on a les magistrats, on a le personnel médical, mais on a aussi le personnel pénitentiaire, on a aussi les membres de la société civile, les ONG, les associations qui sont intéressés.
Et au-delà du contexte et de donc, ce public cible, quelles sont les compétences techniques et, disons, compétences transverses que vise la formation ?
Alors, la formation ne vise pas seulement à donner un certain nombre de connaissances en tant que telles, mais également à donner aux participants des compétences managériales. Alors, il faut dire aussi dans le contexte africain et surtout francophone, parce que pour l'instant, on est plus axé sur les pays francophones, c'est qu'on a très peu de managers. Hein, même les directeurs d'hôpitaux, des directeurs de services en tant que tels, ils ont de la peine, par exemple, à monter des projets dans le domaine, à créer des structures dans ce domaine. Et donc là, on s'est rendu compte que non seulement les connaissances techniques, l'importance de la médecine légale pour la justice, la santé publique et la bonne gouvernance hein, de manière générale, on a essayé de donner aussi des compétences managériales dans le montage de projets et la recherche de fonds, comment monter un projet, comment amener une idée jusqu'à son accomplissement de manière pratique et de répondre à un problème en tant que tel. Donc du coup, dans le programme qu'on a eu à faire, on a mis beaucoup de temps pour former les gens à avoir des compétences managériales et que ce qu'ils vont apprendre ici ne va pas rester seulement de manière théorique, mais que de manière pratique, on aboutisse à quelque chose, à une création d'une unité ou bien d'une section en matière de médecine légale ou de police scientifique dans les États africains.
Oui, donc il y a vraiment une dimension renforcement des capacités aussi pour permettre aux gens de développer cette nouvelle expertise sur le terrain et éventuellement de former d'autres personnes, etc.
Tout à fait, tout à fait.
Et au niveau des techniques spécifiques, est-ce que vous pourriez peut-être décrire une technique en particulier que les participants à cette formation apprennent à maîtriser ?
Ben, ils apprennent par exemple comment examiner un corps, comment regarder en détail, comment faire la documentation de photos aussi, parce que juste décrire qu'il y avait une lésion sans la documenter, sans avoir la preuve, c'est difficile. Et on applique aussi là les nouvelles technologies, donc en plus d'une photographie normale, par exemple d'une lésion visible sur le corps, ils vont aussi apprendre d'utiliser des technologies comme des scans de surface en 3D, donc un scanner qui permet vraiment de digitaliser la surface aussi du corps. Et du coup, on trouve un modèle 3D du corps avec toutes les lésions qui sont présentes sur l'ordinateur. Et avec ce corps-là virtuel, on peut ensuite travailler pour répondre à certaines questions. Par exemple, quel objet a pu créer une certaine lésion ? Est-ce que cette lésion peut vraiment venir de l'objet qu'on a suspecté d'être l'arme de crime ?
C'est fascinant. Les participants doivent être complètement immergés dans le domaine. J'imagine que vous avez recours aussi à des espèces de, peut-être des simulations ou vraiment des jeux de rôle avec les participants. Comment est-ce que vous, d'un point de vue pédagogique, vous les amenez à se mettre en situation ?
Alors, il y a plusieurs aspects. Hein. Au-delà de l'utilisation du matériel technique qu'on a vu qui est assez fascinant, hein, même pour des juristes comme moi, on découvre un certain nombre de choses. Il y a également, comment on appelle, les jeux de rôle, comme vous l'avez dit, mais la pédagogie est très interactive, en fait. Hein, donc là, ce qui nous a beaucoup intéressé, tant les intervenants que les participants, c'est que de part ou d'autre, on a appris. Hein, les intervenants sont venus avec leurs expériences et comme nous avons des professionnels qui ont un certain nombre d'années d'expérience, ils montrent aussi leur contexte. Et donc, du coup, ça permet aux gens d'échanger. Et donc, beaucoup de participants, quand ils sortent avec des réponses à leurs interrogations. Je te prends l'exemple du cours qu'on a eu à l'école des sciences criminelles où il y avait une étude un peu sur l'impact des drogues, le trafic de drogue. Et là, les Togolais ont essayé de montrer aux policiers de donner leur exemple en tant que tel en montrant que ben, la drogue transite par exemple par le Togo pour entrer en Europe. Et ça, c'était quelque chose que la police scientifique de Lausanne, en l'occurrence, n'avait pas intégré dans ces données. Ils ont découvert ici, on comprend maintenant un certain nombre de faits, on ne comprenait pas, mais là, donc cet échange entre magistrats et techniciens de la police permet de comprendre les choses. Deuxièmement, on a un stage aussi, hein, un stage d'impréhension, parce qu'ils entrent dans les institutions suisses, ils découvrent comment ça se passe. Et là, je me rappelle à Lausanne et même à Genève, pour les magistrats togolais qui ont été au ministère public de Lausanne et de Genève, et ils ont eu beaucoup d'échanges interactifs. Ils ont pu, dans leur mémoire aussi, relever que ben, c'était quand même étonnant, par exemple, de voir qu'en Afrique, ça ne se fait pas. On ne demande jamais à un prévenu s'il il autorise quelqu'un, un autre magistrat à assister à son audience. Alors que là, on leur a demandé, est-ce que vous acceptez que telle personne assiste à votre audience? Et là, ça a été quelque chose de particulier pour eux. Et également, les relations entre le supérieur et son collaborateur en tant que tel. Donc voilà, ouais, donc ils ont été très étonnés, comme c'est. Je ne veux pas m'attaquer un peu à la France, mais c'est très hiérarchisé dans la procédure à la française qui est applicable dans les pays francophones. Là, ils voient une autre façon de faire. Et là, donc, ça, ce transfert-là est assez intéressant dans ce sens-là et de manière pratique. Ce n'est pas tellement les théories, mais c'est du pratique. Je donne aussi un cas de transfert qui est assez intéressant. C'est qu'ils ont assisté à une autopsie et quand ils sont ressortis, ils ont dit « on a vu ce que ça veut dire une précision chirurgicale ». Hein, donc la passion, l'engouement, pour moi, ça c'est un magistrat qui m'a dit, une magistrate aussi, pour moi c'est clair, quelqu'un qui écrit une lettre de suicide, elle s'est suicidée. Mais là, lors de l'autopsie, il se rend compte que malgré la lettre de suicide, malgré les signes externes de suicide, en tant que tel, on est allé en profondeur. Et ça c'est quelque chose de particulier, de très intéressant.
Effectivement, c'est absolument fascinant. Vous parlez justement de cet échange qui est particulièrement intéressant en formation continue entre les participants qui sont des professionnels, qui ont des choses à amener aux enseignants également. Quels ont été les retours des participants jusqu'à présent et qu'est-ce que vous souhaiteriez améliorer ou ajouter à la formation pour les prochaines éditions?
Alors, le retour, d'après l'évaluation que les étudiants ont fait, il est très beau. Il est très bon. L'évaluation est très bonne, les étudiants ont beaucoup apprécié. C'est vrai qu'il y a des limites, bon, du règlement intérieur, le temps. Ils ont estimé que le temps de cours était assez peu, assez dense, assez peu. Bon, pour beaucoup, on ne pouvait pas faire autrement en tant que tel. Donc, peut-être réfléchir à une plus longue durée de cours, ça c'est une question. Et aussi le stage pratique. Hein. Donc, des deux côtés, tant les institutions qui les ont reçues que les étudiants ont estimé que le temps de stage, une semaine, était assez court en tant que tel. Donc, peut-être mettre plus, mais ce qu'on a pensé éventuellement, c'est éventuellement faire des colloques et des activités qui compléteraient ce qu'on dispense comme cours aux étudiants. Mais par la suite, il y a eu des retours assez positifs parce que la professeure Silke et le juge Hamdan Antoine ont dû effectuer des déplacements au Cameroun pour faire des formations sur place. Donc, c'est juste à la fin du cours, ils ont estimé qu'il fallait qu'il y ait des activités en Afrique. Et là, cette année aussi, on aura des étudiants venant du Cameroun qui ont assisté aux conférences tenues par la professeure Silke et le juge Hamdan. Et également, au niveau du Burundi, on a un retour très positif dans le sens où, avec la coopération sur place, on est en train de voir comment faire pour créer une unité de médecine légale au Burundi. J'ai été reçu aussi par le ministre de l'Intérieur centrafricain qui aimerait former des policiers centrafricains dans ce domaine, ici en Suisse, mais également en République centrafricaine. Donc le retour est très, très positif et très encourageant.
Sylvie Graber, on parle souvent de l'impact d'une formation continue en particulier, ou également du transfert des compétences acquises vers la pratique professionnelle. Qu'aimeriez-vous voir, vous-même en tant qu'enseignante et directrice de ce programme, comme résultat sur le terrain, disons à moyen ou long terme?
J'aimerais bien que les participants ils comprennent vraiment que ça ne suffit pas de former un médecin, par exemple, pour faire la médecine légale. Il est très important que tous les réseaux existent, parce que pour faire une enquête, une seule personne peut rarement faire quelque chose. Il faut avoir des policiers qui sont formés pour examiner un lieu de crime. Ils donnent autant d'informations que le corps lui-même. Il faut avoir les médecins légistes qui savent examiner le corps. Mais même ça, ça ne suffit pas si on n'a pas les magistrats qui savent, et les avocats aussi, qui savent appliquer toutes ces preuves qui sont apportées par les différents domaines pour vraiment les juger aussi correctement au tribunal. Donc, s'ils ne comprennent pas qu'est-ce que veut dire le résultat du médecin légiste, et peut-être il est en contradiction avec ce que le policier a trouvé, mais à ce moment-là, ils ne peuvent pas appliquer ça dans leur jugement, ils font peut-être un mauvais jugement, où ils disent tout simplement, mais vos résultats sont contradictoires alors qu'ils ne comprennent pas l'enjeu dans l'ensemble. Donc, moi, ce que j'aimerais voir est que dans les différents pays, il y a vraiment des réseaux qui se créent afin de monter en puissance de connaissances à tous les niveaux nécessaires pour résoudre les cas médico-légaux et pas seulement former uniquement des médecins ou former uniquement des policiers. Pour moi, ça serait vraiment un résultat très important si dans les pays qui ont participé à ce CAS, il y a ce réseau qui se crée et une formation qui se fait ensemble entre les différents métiers.
C'est vraiment l'aspect interdisciplinaire ou pluridisciplinaire d'un point de vue formation qui va, à votre avis, avoir un réel impact.
Ben c'est ça, parce qu'en réalité, on n'a pas juste un inspecteur Colombo qui va résoudre les cas tout seul, ou un Quincy ou n'importe quel autre spécialiste qui travaille tout seul, isolé. Ben, l'important, c'est le travail en équipe. Chacun améliore les compétences. Et à la fin, on a quelqu'un qui sait faire la synthèse avec tous les différents résultats qui lui sont donnés.
Patrick Le Sen, vous parliez au départ de comment vous aviez observé initialement ce manque de compétences sur le terrain, directement. De votre côté, concrètement, quels indicateurs ou retours du terrain vous permettront de dire que la formation a porté ses fruits?
Alors déjà, dès qu'on aura une unité de médecine légale dans ces pays, comme l'a bien dit la professeure Silke. Donc, si on a une unité de médecine légale qui existe, alors qu'auparavant, il n'existait pas, c'est déjà un indicateur essentiel pour nous. On saura que la formation a porté ses fruits parce que c'est également pour cela que l'Université de Genève s'est engagée. C'est répondre à un besoin concret dans ces États africains. Donc là, pour nous, c'est quelque chose de capital, et personnellement, en tant qu'Africain également. Donc, où on pourrait recevoir un certain nombre de dossiers parce qu'on a eu des problèmes de détermination de cause de mort dans telle ou telle circonstance. Donc, si on crée dans chaque université, dans chaque structure hospitalière africaine, des unités de médecine légale, ou même au sein de la police, parce que c'est tout un secteur d'activité qui pose énormément de problèmes. La police scientifique en tant que telle. Si on ne met pas en prison des innocents parce que on a fait une observation externe qui était fausse, parce que finalement scientifiquement on prouverait que soit le coupable ou c'est quelqu'un d'autre qui aurait dû être en prison en tant que tel. Donc le renforcement des capacités et avec la création d'unités au niveau de chaque police et de chaque structure nationale africaine serait un pas essentiel pour nous. Là, on pourrait dire on a pu atteindre le but qu'on s'est fixé, et notamment si on peut déterminer réellement ce qui s'est passé.
Professeur Graber, j'imagine que, comme beaucoup de formations, votre CAS a été affecté par la pandémie de la COVID-19. Comment est-ce que vous avez vécu cette pandémie d'un point de vue de l'enseignement, et comment est-ce que vous voyez évoluer le CAS à court, moyen terme?
Bon, pour nous, la pandémie était très, très difficile parce que nous avons réfléchi très longtemps. Est-ce que ça vaudrait la peine de faire ce CAS par des moyennes virtuelles? Donc, est-ce qu'on peut le faire à distance? Mais on est arrivé très rapidement à la conclusion, non, ça ne sert à rien, parce qu'à distance, tout ce qu'on avait décrit qui était important de découvrir vraiment les technologies qui existent, d'avoir l'échange entre les gens d'ici et les gens qui viennent de l'Afrique, tout ça, ce qui est vraiment l'essentiel du CAS, on aura perdu. Parce que l'idée n'est pas leur donner un cours théorique qu'ils vont peut-être oublier directement après, mais l'idée est vraiment d'ouvrir les yeux et faire découvrir quelque chose de nouveau. Donc, notre CAS, il dépend de la présence des Africains, et évidemment, la pandémie ne nous a pas permis de faire venir les Africains en temps voulu. Aujourd'hui, on espère, parce qu'on a rapporté en fait le CAS un peu plus tard dans l'année, on espère de pouvoir réaliser le CAS encore cette année, sinon on va continuer dans l'année prochaine, et on essaye d'intégrer encore plus les commentaires, peut-être leur laisser plus de temps, peut-être aussi utiliser les moyens technologiques pour les préparer un peu plus en amont avant qu'ils arrivent en Suisse pour que le contenu est un peu moins dense au moment où ils arrivent là. On a aussi certaines thématiques qu'on n'avait pas du tout eu le temps de vraiment les aborder, comme d'aller plus en détail pour la génétique forensique qui est très, très important. Donc, ces lacunes qui manquaient, on veut compléter et on veut vraiment renforcer les aspects interactifs, visite, stage, parce que je pense que c'est ça qui marque les gens. Et si on veut qu'après ils retournent dans leur pays, ils sont motivés de changer quelque chose, bah, il faut qu'ils ont vécu quelque chose et pas juste entendu ou lu. Et je pense que c'est ça qui est important.
Oui, c'est ça qui a été particulièrement difficile pour les formations telles que le CAS, qui ont une dimension vraiment pratique extrêmement importante. Et également cette dimension de réseautage ou de networking, où, comme vous le dites, la présence est vraiment essentielle. Parce que ce que je comprends, c'est que vous utilisiez déjà les outils de e-learning, de formation à distance, dans la version initiale. Donc, finalement, vous utilisiez déjà ces outils, j'imagine, pour faire passer ces contenus plutôt théoriques.
Tout à fait. Là, on leur envoie un syllabus, on leur envoie des liens, on leur envoie des vidéos déjà pour qu'ils s'imprègnent. Comme vous le savez, c'est interdisciplinaire. Le médecin, il ne connaît pas le droit. Le juré, l'avocat ou le magistrat qui vient ne connaît pas la médecine. Et donc, tout cela, on essaie de leur donner un certain nombre d'outils et d'interagir avec eux au travers des questions-réponses. Hein, ou quand ils ne comprennent pas les choses, ils essayent de nous poser les questions et on essaie de répondre à tout cela 2 mois avant qu'ils ne viennent. Par exemple, pour cette promotion qui doit venir, ils ont déjà reçu les documents, ils sont en train de le lire. Chaque semaine, on essaie de discuter un peu par mail. Hein. Le gros problème du COVID et puis de cours à distance de manière générale classique, on va dire par Zoom ou autre, c'est que déjà dans beaucoup de pays africains, il faut avoir un ordinateur. Ça, ils l'ont pour certains, puisque ce sont des professionnels, ils l'ont, mais le problème, c'est qu'il faut déjà qu'ils aient la connexion. Ça pose énormément de problèmes et dans un pays comme la République centrafricaine où il n'y a pas d'électricité. Vous voyez, donc ces gens, si vous essayez de faire un cours à distance, il y a quand même une discrimination de fait qui va se poser parce que certains n'ont même pas d'électricité ou l'électricité ne vient qu'à 3h à 5h du matin au moment où on dort. Hein, donc, ils ne pourront pas faire le cours. Donc, ça pose énormément de problèmes. Donc, on a essayé de faire cela. Et comme a dit la professeure Silke, c'est très important qu'ils viennent parce qu'ils découvrent. Et ça, c'est en tant qu'Africain aussi moi-même. Hein, et l'expérience suisse m'a amené aussi à voir que le côté managérial, le côté passion, professionnalisme qui manque dans certains pays francophones en Afrique ne peut pas être dispensé à distance. En tant que pays, il faut qu'ils soient là, qu'ils voient et qu'ils comprennent finalement les enjeux. Un autre aspect très important, c'est que quand vous avez des magistrats de hors hiérarchie, c'est-à-dire de très haut niveau, qui viennent et des médecins, quand ils sont ici, ils sont plus à l'aise pour dire un certain nombre de faits qu'ils ont vécu de réalité qu'ils ne diraient pas chez eux. Parce que dans la salle, il n'y a pas le ministre, il n'y a pas son supérieur hiérarchique, ils sont plus libres et on peut discuter de manière très concret. Je donne un exemple où un ressortissant d'un pays, quand il parlait de lui, il parlait à la troisième personne. Et lorsqu'on l'a interrogé, on lui a dit, mais écoute, sens-toi libre, tu n'es pas ici, on n'est pas de policiers, tu vas rester. Et là, il a essayé de dire un certain nombre de situations dans son pays de manière politique. Et puis, quand derrière moi, le président de son pays est décédé, en tant que temps, il dit, tu aurais dû autopsier ton président qui serait mort si on t'avait laissé la liberté. Ouais. Donc là, Genève a beaucoup d'atouts sur ce point-là, et c'est ce qui fait que la COVID en tant que telle a eu un impact parce qu'on a reporté de quelques semaines la formation, et on espère qu'elle aura lieu si les ambassades s'ouvrent, hein, parce que pour le problème, pour l'instant, c'est plutôt les représentations consulaires suisses qui ne travaillent pas dans les États africains et que ça permettra aux étudiants de venir.
Le programme actuel se concentre surtout sur le renforcement donc des capacités sur le continent africain. Pensez-vous que la formation pourrait être adaptée et mise en œuvre dans d'autres régions ?
Certainement. Alors, moi, j'avais déjà des demandes de certains pays d'Europe de l'Est où j'étais déjà plusieurs fois dans leur centre, visiter le centre, donner peut-être conseils, aller à des conférences. Et quand ils ont appris de ce programme, ils ont dit « Mais pourquoi c'est que pour les Africains ? Nous aussi, on veut venir. » Et je pense qu'il y a une demande qui est là et quelque chose qui pourrait être fait. Mais même ailleurs, donc je connais très bien les différents systèmes de médecine légale dans les différents continents, dans les différents pays. Je pense à la base, un cours qui est interdisciplinaire pour les acteurs les plus importants, donc de nouveau les juristes, les policiers et les médecins, c'est quelque chose que tout pays a besoin, très honnêtement, parce que ce qui manque souvent, c'est l'échange entre les différentes professions et la compréhension aussi de l'un pour l'autre et aussi des limites de chaque profession.
Mais plutôt adapté pour la Suisse romande. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus?
Oui, alors maintenant, les différentes expériences que j'ai eues au niveau professionnel et aussi avec les échanges qu'on a régulièrement avec les magistrats, les procureurs, les avocats, on a aussi vu qu'il y a un problème principal, c'est que les médecins et les juristes ne parlent pas du tout la même langue et ne se comprennent souvent pas. Donc ça, c'est quelque chose que les médecins ils constatent, c'est quelque chose que les juristes ils constatent au niveau du tribunal, au niveau des services juridiques dans les hôpitaux. On est très différentes, notre cerveau fonctionne différemment, notre langage est différent et on a vraiment dit, mais il faut faire quelque chose, il faut que ces deux professions qui se rencontrent régulièrement, quand même, ils ont un langage commun, ils se comprennent mieux. Donc l'idée était de mettre en place un CAS qui est là pour les juristes et aussi pour les médecins et qui permettra en fait de faire mieux comprendre la justice, le fonctionnement médical et de mieux faire comprendre aux médecins le fonctionnement juridique. Des exemples sont tout bêtes. Si moi je suis demandé de faire une expertise sur un dossier où on suspecte une erreur médicale, bah, j'ai besoin, par exemple, d'un chirurgien qui m'aide pour examiner ce dossier. Parce que je ne suis pas chirurgien, mais je sais ce qu'un juriste a besoin pour comprendre si oui ou non une erreur a eu lieu ou pas, et je sais comment définir l'erreur. D'autre côté, le chirurgien qui examine le dossier avec moi, bah, si on lui demande est-ce qu'une erreur a eu lieu, bah, très souvent il me dit « mais oui, c'est évident », mais il manque l'argumentation et l'explication qui rendent au juriste possible d'utiliser ses connaissances à ce chirurgien pour vraiment faire un jugement au sein d'un tribunal. Donc, je pense qu'il est important que les gens y comprennent qu'est-ce que c'est un rôle d'un expert, qu'est-ce qu'on attend d'un expert, comment on peut expliquer un fait médical à des non-médecins, et d'autre côté aussi de faire comprendre à des juristes pourquoi de temps en temps un patient il meurt suite à une opération, mais ce n'est pas forcément une erreur, c'est plutôt autre chose qui est intervenue et peut-être le médecin a vraiment tout fait ce qu'il pouvait, mais certaines fois, on ne peut pas aller plus loin. Ou aussi de leur dire, mais dans certains dossiers, on ne peut pas donner une réponse. Et ça, c'est souvent très dur à accepter pour les juristes qui mandatent une expertise, qui coûte une certaine somme, et le résultat pour eux n'est pas satisfait, mais ça ne serait pas sérieux d'aller plus loin si on ne peut pas.
Donc, dans un tel projet, dans un tel programme également, vous, j'imagine que vous prévoyez d'avoir un groupe de participants assez varié et pluridisciplinaire.
Oui, tout à fait. Comme a dit le professeur Silky, on a des médecins, on a des experts, on a des magistrats, on a également les forces de sécurité, puisqu'ils sont impliqués souvent dans un certain nombre de faits qui peuvent conduire à la mort ou à des lésions physiques ou corporelle en tant que telle, et même la société civile, hein, au niveau de Suisse romande, de la Suisse romande plutôt, on a tout un certain nombre d'acteurs qui sont intéressés par la formation. Donc le comité scientifique qui a été mis en place comprend les gens venant de tous ces secteurs-là, des avocats, hein, les membres du barreau, des médecins, des professeurs d'université bien entendu, mais des directeurs des établissements pénitentiaires aussi, puisqu'ils sont amenés à s'occuper de personnes qui sont incarcérées en tant que telles. Donc voilà, donc on a, le public est assez large. Et on espère aussi avoir le personnel de la Genève internationale, hein, qui interviennent aussi dans un certain nombre de continents, qui permettraient de voir aussi le système suisse, qui est assez particulier, mais qui est assez intéressant aussi pour aider dans d'autres domaines aussi, sur d'autres parties du continent.
Prévoyez-vous des ponts ou des rencontres entre les deux groupes de participants, celui du CAS Afrique et le futur CAS pour la Suisse romande?
Oui, tout à fait. Alors, Peut-être que le temps serait un peu différent de cours, mais la méthodologie est un peu différente parce qu'on a des thématiques très particulières à l'Afrique, par exemple la justice transitionnelle, qui est assez importante pour le continent qui sort de situations de conflit, alors que ce n'est pas le cas en Suisse. Mais on s'est dit que les notions essentielles, générales, de médecine légale, de sciences forensiques seraient vues ensemble. Il y a aussi le partage de connaissances entre professionnels qui viennent d'Afrique et d'ici et qui puissent aussi échanger leurs connaissances, mais éventuellement peut-être faire des échanges. On ne va pas parler de comme l'émission qui passe à la RTS, Jobs Talk ou autre, là, professionnel, échange de professionnels, mais ce serait bien qu'ils voient et puis qu'ils créent des liens en tant que tels, et puis les participants africains, les experts africains, s'ils créent les structures en Afrique, ils auront déjà des collègues qui peuvent faire intervenir dans leur programme. Et donc, ça pourrait éventuellement aussi permettre à l'enseignement suisse de se développer sur le continent africain et aussi aux Africains d'apporter leur expérience. Hein, puisque, par exemple, pour les magistrats, il y a des cas assez particuliers, difficiles à traiter pour le Suisse, mais intéressant pour l'Africain, c'est le cas de la sorcellerie. Hein, comment on juge un sorcier? Donc, pour un Suisse, c'est impensable. Pour l'Africain, c'est une réalité. Donc, vous voyez, donc, il y a des interactions assez intéressantes qui seraient bien prises. Donc, on a pensé inévitablement les faire rencontrer ensemble.
Voilà, nous arrivons à la conclusion de cet entretien. Et pour conclure nos épisodes, nous finissons toujours par les conseils et les suggestions des experts. Avez-vous, professeur Graber, des conseils aux personnes, aux étudiants et étudiantes, aux professionnels qui seraient intéressés par ce domaine et éventuellement de se former dans le domaine de la médecine légale et les sciences forensiques?
Alors, les conseils que j'ai, si je pense, on ne peut pas aller étudier la médecine pour faire la médecine légale. Je pense que c'est quelque chose qui arrive plus tard dans le choix professionnel. Par contre, c'est jamais trop tard pour la médecine légale non plus. Donc, la médecine légale, elle touche beaucoup de domaines, beaucoup de personnes qui pensent, mais moi, je n'ai rien à voir avec ça. Ils sont peut-être concernés parce que c'est encore beaucoup plus large. Il y a encore la médecine de trafic, les expertises, l'aptitude à conduire. Il y a l'antidopage, il y a la psychiatrie légale. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de domaines à découvrir. Et si quelqu'un aimerait vraiment savoir ce qui est la médecine légale, je pense que c'est un module très intéressant. Et d'une façon ou l'autre, tout le monde va être touché et impacté par ce qu'il y a à apprendre dans les différentes classes. Aussi, si on travaille dans le domaine du droit, si on travaille dans un hôpital, automatiquement, on est touché par la médecine légale. Donc, elle est un peu inévitable et mieux de se former avec. Donc, mon conseil, il faut quand même avoir certaines connaissances parce que, comme le dit le droit, le fait de ne pas savoir quelque chose n'empêche pas d'obtenir finalement une peine si on n'a pas fait juste.
Docteur Le Sen, de votre côté, des conseils pour les personnes qui seraient intéressées par ce domaine?
Oui, comme l'a dit la professeure, c'est que nul n'est censé ignorer la loi. Comme elle a si bien résumé en ces termes en tant que tel, mais aussi la motivation. Je crois que c'est quelque chose qui est capital, aller trouver la cause, être motivé à apporter un changement en tant que tel, surtout pour le continent africain, pour les professionnels africains, c'est apporter un changement, apporter quelque chose pour son pays, pour sa population, contribuer à la résolution des conflits, à l'effectivité de la justice. C'est quelque chose que les professionnels devaient avoir en tête parce que même si… et puis aussi sortir, hein, quelque chose qui est très important parce qu'en général, pour les Africains, pour beaucoup de personnes, moi-même à l'époque, la médecine légale, nous, on voyait que le macabre, le cadavre sur une table. Mais là, on se rend compte que non, il y a beaucoup d'interactions, il y a beaucoup de choses qui se font et ça, c'est important d'être vraiment ouvert et motivé pour aller plus loin.
Et enfin, la question que nous posons à tous nos invités à la fin de nos épisodes, avez-vous des suggestions de lectures pour aller plus loin ou des lectures qui vous ont particulièrement marqué? Peut-être une recommandation chacun, en commençant par la professeure?
De la lecture sur la médecine légale, il y a beaucoup. Il y a pas mal de médecins légistes qui écrivent des livres un peu pour raconter leurs expériences. Après, il y a deux types de lectures. Il y a ceux qui sont vraiment scientifiques pour apprendre quelque chose de réel ou il y a ceux qui sont plutôt dans la science-fiction. Donc, Un livre que moi je suis en train de lire moi-même, c'est les anecdotes de médecin légiste par un monsieur Sapané, il s'appelle, un médecin légiste en France. C'est très amusant. Important de savoir, c'est une façon très ancienne de travailler qui fonctionne quand même bien. Et je pense que si quelqu'un ne veut s'intéresser à la médecine légale, on apprend quand même certaines choses dans ce livre. Et surtout, c'est vraiment amusant et intéressant. Les petites histoires sont chouettes à lire.
Oui, pour moi, c'est deux films, on dira. Je ne dirais pas de lecture en tant que telle, mais peut-être deux films à regarder. Un concerne l'Afrique, c'est Hôtel Rwanda. Hein, c'est le génocide où on voit l'importance du droit de savoir, le devoir de mémoire aussi pour les victimes, mais aussi également pour les survivants et pour tout un pays. Hein. Alors qu'on voit ce film, on voit l'importance de la médecine légale, savoir pour tourner la page. Parce que jusqu'aujourd'hui, le Rwanda n'est pas encore sorti de cette histoire tragique en tant que telle. Donc comment on peut reconstruire un continent au travers qui sort de cette crise-là. Donc, ça montre l'importance de la médecine légale, de la justice, du droit, donc, de la médecine légale et aussi de la science forensique, où il faut retrouver l'identité des victimes pour que les proches puissent faire leur deuil et pour qu'on puisse se reconstruire. Et deuxièmement, je dirais, suivez un peu l'actualité qu'on a eue avec l'affaire Adama Traoré en France, hein, où, voilà, donc là, on n'arrive pas à trouver une solution et ça crée un certain nombre de problèmes pour les pays francophones. Ce serait intéressant de voir cela parce que c'est le dilemme entre justice et médecine qui se pose, où quand on ne fait rien, ça peut amener aussi un certain nombre de troubles dans un pays, même s'il est développé comme la France.
Professeur Sique Graber, docteur Patrick Lessen, merci infiniment de nous avoir accordé du temps pour l'enregistrement de cet épisode et très belle journée à vous.
Merci beaucoup, Raphaël.
Merci.